Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et notre Seigneur l'a d'ailleurs lui-même prononcé, se référant à Noé et à l'époque qui était la sienne autrefois et disant, il en sera ainsi lorsque le Fils de l'homme reviendra. Et la question est, trouvera-t-il la foi quand il reviendra? En effet, autrefois, il y avait beaucoup de gens sur la terre et peu croyaient, très peu, une poignée. Et le Seigneur dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Seulement en ceux à qui il a parlé, qui ont mis en lui leur confiance et ont cru en sa parole. Tous les autres passeront à côté de lui. En matière de foi, je l'ai souvent dit, croire en Dieu est une chose et croire ce que Dieu a dit en est une autre. Beaucoup croient en Dieu, des millions, voire des milliards. Mais croire Dieu, c'est une autre affaire, c'est une autre chose. En Dieu, même le diable croit et tremble, comme le dit l'épître de Jacques. Mais croire ce que le Seigneur a dit, cela n'est donné qu'à ceux qui appartiennent à son peuple, qui sont effectivement sa propriété. Et c'est de là que vient aussi la parole, celui qui croit, comme dit l'Écriture. Pas seulement celui qui croit n'importe comment, mais qui croit comme le disent les Écritures. Il y aurait ici plusieurs choses à remarquer. Si vous voulez bien vous en souvenir très brièvement, il s'agit parfois des 120 ans et nous devons faire très attention à ce que Noé n'a pas prêché pendant 120 ans. Nous devons être très attentifs à cela. Il est dit dans Genèse 5, au dernier verset, « Lorsque Noé eut 500 ans, ses fils, Sem, Cham et Japheth, lui naquirent. À l'âge de 500 ans, ses trois fils lui sont nés. Puis vient ce qui est écrit au chapitre 6 et au chapitre 7, au verset 5, il est dit, verset 5, chapitre 7, Noé fit tout exactement comme le Seigneur le lui avait ordonné, verset 6. Noé était âgé de 600 ans lorsque le déluge s'abattit sur la terre. Ainsi, à l'âge de 500 ans, ses trois fils lui naquirent. Et les trois fils entraient déjà dans l'arche avec leurs femmes, selon la parole de Dieu. Et il avait 600 ans lorsque le déluge s'est abattu sur la terre. Il faut donc parfois lire avec un peu d'attention pour s'en rendre compte. Une deuxième fois, c'est écrit dans Genèse 8, verset 13. La sixième centaine d'années de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché de dessus la terre. Donc, de nouveau, c'est 600 ans. Ce qui m'a frappé ici auparavant, c'est le verset 11. La colombe revint vers lui vers le soir. Et voici qu'elle avait dans le bec une feuille d'olivier fraîche. La colombe, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, frère Branham a chanté l'un des derniers cantiques dans la prédication ou dans l'une des prédications tenue en décembre 65, c'était l'une des dernières prédications. Le cantique de la colombe blanche comme la neige. Et il se référait à Noé, comment est-ce que Dieu lui avait donné un signe par cette colombe qu'il avait envoyée et qui avait ensuite ramené la réponse, à savoir que l'eau s'était retirée et avait déjà apporté une feuille d'olivier fraîche. Et cela se passa au crépuscule, donc au temps du soir. On pourrait lire ici beaucoup de choses de l'histoire de Noé. Et nous venons de traduire une prédication. Frère Branham veut y démontrer que chaque homme, même chaque homme de Dieu, a commis une ou plusieurs erreurs. Et il essaie même de le démontrer avec force, avec Joseph dans l'Ancien Testament. Et nous avons remarqué à quel point c'est difficile. Mais Noé était un homme aussi ordinaire que nous tous. Et il a effectivement trop bu un jour. Même s'il est dit de lui qu'il marchait avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Mais il est resté un homme. Et il est dit ici au chapitre 9, nous ne voulons jamais mettre en avant les mauvaises choses, mais la parole de Dieu rend compte des deux. Chapitre 9, verset 20. Noé devint donc un homme de la terre et planta aussi une vigne. Verset 21. Lorsqu'il but du vin, il s'enivra et se coucha nu dans sa tente. Vous connaissez l'histoire. Nous avons toujours les deux dans la parole de Dieu. Nous avons le côté divin et nous avons le côté humain. Et frère Branham le mentionne dans une prédication et dit, lorsque Dieu a donné son commentaire sur Abraham et sur David et tous ses serviteurs, pas un seul reproche n'a été prononcé. Mais seulement ce qui était important dans l'histoire du salut, ce qui était d'origine divine, c'est ce que Dieu a mis en évidence. Nous voyons que Dieu a conclu une alliance avec Noé. Noé avait trouvé grâce auprès de Dieu une fois pour toutes. Pas seulement pour quelques jours, mais pour toujours. Et ainsi, on pourrait lire toute l'écriture sainte, toutes les saintes écritures, et constater que Dieu a eu pitié de ceux qu'il a appelés, qu'il a graciés, et qu'il a pu bénir. Ce soir, en regardant très brièvement dans les écritures, une parole de l'évangile de Jean au 7e chapitre a pris une grande dimension pour moi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, il est dit ici au verset 46, Jean 7, verset 46. Les serviteurs répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Cela se réfère à notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, qui était extérieurement un homme, trouvé comme un homme, sans reproche, sans faute, sans péché, mais sans reproche, sans faute, sans péché. Il est en effet venu pour prendre ta faute et la mienne, pour porter ton péché et le mien. Mais il est dit ici, au verset 45, les serviteurs revinrent donc vers les souverains sacrificateurs, et les pharisiens et ceux-ci leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Verset 46, les serviteurs répondirent, jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Il devait mettre la main sur lui, s'emparer de lui, car la conversation circulait déjà parmi le peuple. Celui-ci est-il vraiment le prophète? Nous avons lu récemment dans Jean 1 que Jean a dit « Je ne suis pas le prophète ». Permettez-moi de lire ici tout de suite comment est-ce que les Juifs ont compris cela conformément à la parole. Jean 7, verset 40. « Or, certains parmi le peuple qui avaient entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » Pas un prophète, mais le prophète dont Moïse a parlé. Un prophète comme moi, Dieu le suscitera parmi vos frères. Verset 41, Jean 7, d'autres disaient, c'est le Christ. D'autres encore disaient, le Christ ne vient quand même pas de Galilée. Et alors, bien sûr, la réponse arriva au verset 42. L'Écriture n'a-t-elle pas dit que Christ devait venir de la prospérité de David et de la localité de Bethléem où David a habité? Verset 43, il y eut donc une division parmi le peuple à cause de lui. Verset 44, certains d'entre eux auraient alors voulu l'arrêter, mais aucun ne mit la main sur lui. Ne savait-il pas qu'il était né à Bethléem? Cela leur avait-il échappé? Non, ils le savaient. Mais soudain, il a apparu en Galilée, afin que la parole de l'Écriture s'accomplisse. Zabulon et Nephtali, la Galilée des nations, a vu une grande lumière. Il fallait que cela s'accomplisse. Et puis ils disent, oui, cherchez vous-même. Si de la Galilée sort un prophète, Jean 5, verset 52. Il y avait une différence entre le lieu de sa naissance et le lieu de son apparition et de son ministère. Et les villes où il allait laisser sa vie, c'était des choses différentes et des contextes différents. Ils n'ont pas compris la première, la deuxième ou la troisième chose. Ils n'ont pas compris sa naissance. Ils n'ont pas compris son ministère. Ils n'ont pas compris sa crucifixion et sa mort. Encore moins. Et en tout cela, l'Écriture s'est accomplie sous leurs yeux, avec sa naissance, avec son œuvre, avec sa mort, avec sa résurrection, avec sa montée au ciel, avec tout. Et pourtant, cela restait caché à leurs yeux. Mais ces précieuses paroles ici, parmi les hommes, il y avait ceux, et même parmi les serviteurs, qui avaient été envoyés, les serviteurs répondirent, verset 46, Jean 7, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. » Et ça en était déjà trop pour eux, ils se mirent en colère, bouleversés intérieurement. Il est dit ici au verset 47, « Les pharisiens leur répondirent, vous êtes vous aussi laissés égarer? » Non, ils ne s'étaient pas laissés égarer. Ils avaient seulement entendu un homme parler comme aucun homme n'a jamais parlé. Les paroles leur sont allées droit au cœur. Et bien qu'ils aient été envoyés pour s'en emparer, la parole qu'il leur avait adressée, l'homme s'est emparé d'eux et leur est allé droit au cœur. Et ils dirent, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. C'était déjà trop. Et il est dit au verset 47, les pharisiens leur répondirent, vous êtes vous aussi laissés égarer? Verset 48, y aurait-il un chef ou un pharisien qui soit venu à croire en lui? Ils étaient fiers de voir que les pharisiens et les chefs ne croyaient pas en lui. C'était pour eux un certain triomphe. Pour les gens ordinaires, pour le peuple ordinaire, ceux qui étaient destinés à la béatitude, la situation était tout autre. Ils aimaient l'entendre. Ils venaient et savaient de sa bouche sortaient des paroles de vie éternelle. Des paroles de salut, de bénédiction, de délivrance, de guérison. Où aurait-il parlé une fois? sans qu'un homme ne reçoive pas, ce qu'il souhaitait. Sans qu'un homme ne reçoive pas ce qu'il souhaitait. Il a toujours eu les bonnes paroles au bon moment. Il les a prononcées de manière juste. Jean 7, verset 49, non. Seulement, ce vulgaire peuple qui ne connaît pas la loi, maudit soit-il. Donc, se référant au peuple, non, ils sont bénis aux yeux de Dieu. Ce que les hommes maudissent, Dieu l'a béni. Et ce que le monde rejette, Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi et vice-versa. Dieu agit exactement à l'opposé de ce que font les hommes. Seulement, ils ne le comprennent pas. Ils pensent que ce qu'ils font est juste. Non. Seul ce que Dieu fait est juste. Tout le reste ne compte pas. Comment cela est-il dit ici en face des hommes? Verset 49, non. Seulement ce vulgaire peuple qui ne connaît pas la loi. Ils n'ont peut-être pas su grand-chose de la loi, mais ils ont craint le législateur dans leur cœur. Ils ont craint celui qui a donné la loi dans leur cœur. Et ils ont compris le sens de la loi, à savoir que la promesse de la grâce et du Messie y avait également été donnée. Et comme Paul l'explique plus tard, aucun homme ne peut être sauvé par la loi. Ça, c'est évident. Et c'est ainsi que les hommes ont placé leur confiance dans le Seigneur. Et maintenant, après que cette déclaration cruelle a été faite et que la malédiction a été prononcée, nous lisons au verset 50, Jean 7, verset 50, Nicodème, qui était venu voir Jésus autrefois et qui appartenait à leur parti, dit alors, verset 51, « Est-ce que notre loi condamne un homme sans qu'on l'ait d'abord interrogé et sans qu'on ait établi sa culpabilité ?» Verset 52, « Ils lui répondirent, « Serais-tu aussi originaire de Galilée ? Cherche donc et apprends qu'aucun prophète n'est issu de la Galilée. » Il n'avait pas besoin de beaucoup apprendre ni de beaucoup comprendre. La parole de Dieu avait été prononcée par le prophète Ésaïe au chapitre 8 à la fin et selon le chapitre 9 au début d'Ésaïe où la lumière brillerait et ceux qui vivent dans les ténèbres la verraient. Ici, ils s'en prirent aussi à Nicodème qui était tout de même un enseignant parmi eux. Il dit en s'incluant et dit, condamné, est-ce que notre loi condamne? Vous voyez, il ne disait pas votre loi, mais il dit, il s'incluait lui-même. Il était encore des leurs. Est-ce que notre loi condamne quelqu'un sans l'écouter? Donc, puis ils leur donnèrent aussi la réponse. Qu'est-ce que cela doit nous dire ce soir? Un homme qui a vraiment entendu et compris le discours du Seigneur en ce temps-là, qu'il a vraiment pris à cœur, dira, et confessera, jamais nous n'avons entendu cela, jamais le Seigneur n'a parlé d'une telle manière qu'en ce moment même, dans ce temps. Et alors, des gens pourront venir et dire, oui, ce ne sont que ceux et celles qui l'écoutent. Soyons de ceux-là pour qui les paroles du Seigneur sont précieuses. Pour qui les paroles du Seigneur sont précieuses, que nous pourrions aussi dire jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu en Christ. C'était des paroles de Dieu. Bien sûr, les paroles de Dieu ne sont pas dans une autre langue, elles sont dans notre langue. Certaines personnes pensent que lorsque Dieu parle, Il s'agit d'une sorte de langage céleste. Dieu a parlé à Noé comme n'importe quel autre homme aurait parlé. Et il a tout compris. Il a parlé à Abraham de manière à ce qu'il comprenne. Et il a parlé à Saul de manière à ce qu'il comprenne. Dieu parle à l'homme dans n'importe quelle langue, selon les besoins du moment. Mais celui qui a entendu et reçu son discours pourrait constater la différence et dira avec ces gens, jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Ils ne savaient pas encore qui il était. Ils ne savaient pas. Mais dans leur cœur, ils ont vu la différence. Ce n'était pas des paroles élevées, ce n'était pas la qualité des mots, mais ce qu'ils exprimaient. Pas une éducation de haut niveau, mais effectivement, une simple parole de Dieu. Et frère Branham dit, notre Seigneur n'a pas parlé le vocabulaire élevé et celui utilisé par les notables, mais réellement un langage tel qu'on pouvait l'entendre de n'importe quel homme dans la rue. Et c'est pourquoi, dit frère Branham, tous les érudits qui avaient appris un langage savant ont eu tant de difficultés à traduire les discours de Jésus. Parce que dans leur érudition, ils n'ont pas du tout trouvé certains mots tels qu'ils les prononçaient. Et on parle de l'ancien araméen et du nouveau. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'était une chose simple. Dieu révélé en toute simplicité. Parler et agir en toute simplicité. Mais sa simple parole a une telle puissance et une telle force. Et les grandes paroles de tous les grands, elles n'ont absolument aucun effet. Elles n'ont aucune force en elles. Mais la parole de notre Seigneur, c'est en elle que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et les gens qui ont cru en lui ont vu la différence. Ils en avaient en effet entendu beaucoup, mais lorsque le Seigneur leur a parlé, ils ont dû constater la différence et dire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Qu'en est-il pour toi et moi de la parole du Seigneur? Avons-nous perçu la différence? Car je crois que Dieu nous a parlé en ce temps. Et cela par sa parole révélée. Il nous a fait connaître sa volonté sans que nous le lui demandions, sans que nous sachions ce qu'il avait l'intention de faire avec nous. Il est dit ici au chapitre 8 du verset 12. Jean 8, verset 12. Alors, Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Verset 13. Les pharisiens lui dirent, « Alors, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas valable. » Il était très dommage que le Seigneur ait aussi toujours autour de lui des personnes de ce genre qui lui coupait toujours la parole et n'arrivait toujours pas d'une manière ou d'une autre à gérer ce qu'il disait. Il aurait mieux valu qu'il n'ait qu'un public qui l'aime, qui l'accueille, qui le reçoit, qui croit à ses paroles. Mais lui aussi a dû se confronter aux gens de l'époque. Il dit, Jean 8, verset 15, « Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne du tout. » Verset 16, « Mais même si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, Mais avec moi, il y a celui qui m'a envoyé. Verset 17. Or, il est écrit dans votre loi que le témoignage de Dieu, de deux personnes, pardon, est vrai. Verset 18. Je témoigne de moi et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi de moi. Le verset 19, ils lui demandèrent, alors, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ceci est en accord avec la parole. Celui qui connaît le Fils connaît aussi le Père. Et avec la parole, celui qui me voit, voit le Père. Et avec les nombreuses paroles des Saintes Écritures, tout est que révélation par l'Esprit de Dieu. Les hommes n'ont pas pu le comprendre. Ils parlaient de son Père et ils demandaient, et ils lui demandaient, mais qui est ton Père? Alors, il dit, verset 19, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Au verset 20, il prononça ces paroles alors qu'il enseignait près de la caisse des offrandes dans le temple et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. L'heure pour tout doit être là, pour son œuvre, pour ses souffrances, pour sa mort, pour sa résurrection et pour sa montée au ciel. Comme il a dit autrefois, votre temps est toutes les voies, mais mon heure n'est pas encore venue. Ainsi, Dieu a fixé un temps et une heure pour tout. Son discours à son peuple a toujours été quelque chose de très particulier. Et c'est aux siens qu'il a pu dire, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Quand je pense au nombre de paraboles que le Seigneur a prononcées et comme une énigme dont il a exposé le contenu aux hommes et qu'ils en savaient autant avant ou après qu'avant, puis il dit à ses disciples, mais à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Certaines choses mystérieuses sont également enveloppées dans les prédications de Frère Branham, comme dans un noyau. Mais la solution de l'énigme n'est ni en toi, ni en moi, mais seulement en celui qui a enveloppé le mystère. Celui qui l'a caché peut aussi le révéler. Vous savez très bien que Dieu était caché en Christ et qu'il s'est révélé à ceux qui sont venus à la foi en lui, qui ont cru en lui. Il était à la fois caché pour les uns et révélé pour les autres. Il était les deux. Les uns ont cru, les autres n'ont pas cru en lui et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Ici, il dit encore, et je voudrais déjà en venir à la conclusion, verset 23. Alors il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, verset 23. Moi je ne suis pas de ce monde. Verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. J'ai remarqué à quel point il est important de lire justement quelques versets de plus. Car tout à l'heure, notre Seigneur a dit au verset 21, puis il leur dit à nouveau, je m'en vais, alors vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Verset 21. Mais nous remarquons qu'il poursuit plus tard. Il ne laisse pas un désespoir généralisé en parlant de tout, en parlant de tous, et dit mourrez dans eux, vous mourrez dans votre péché. Mais il précise, comme nous venons de le lire, que seuls ceux qui ne croient pas que c'est lui qui ne croit pas qu'il est, mourront dans leur péché, qui ne croient pas en ce qu'il est, mourront dans leur péché, dans leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en ce qu'il est. Nous l'avons entendu tant de fois de la bouche du frère Branham. La foi vient de Dieu, elle est et est opérée par la parole de Dieu. L'incrédulité vient de l'ennemi qui veut réduire à néant la parole et nous priver, toi et moi, de cette foi et la détruire. Nous ne pouvons pas nous empêcher de prendre pour modèle tous ces hommes qui ont cru ce que Dieu leur a dit. Noé a cru ce que le Seigneur lui a dit et il a agi exactement selon l'ordre du Seigneur. Et il a vu de ses propres yeux l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Il vit les moqueurs prendre fin, les méchants périr, et il vit comment Dieu, dans sa fidélité, avait respecté son alliance et sa grâce, non seulement en parole, mais en acte. Et c'est pour la même eau, et c'est par la même eau que d'autres ont été noyés ou noyés. C'est par la même eau qu'il a été emporté en douceur au-dessus du jugement. C'est cette même eau qui a été fatale aux infidèles, aux incroyants, aux incrédules et qui les a fait mourir. C'est cette même eau qui a porté Noé et l'arche. La même eau, pas une autre. À côté d'une, donc, pour les uns la mort et pour les autres la vie. Paul dit, pour les uns nous sommes une odeur de vie pour la vie et pour les autres une odeur de mort pour la mort. Qui peut le déterminer? Seulement celui qui décide de la mort et de la vie. N'en était-il pas de même pour les enfants d'Israël et pour le peuple ou l'armée d'Égypte? La même mer rouge que le peuple de Dieu a traversé et ce à pied sec a été fatale aux Égyptiens et les a ensevelis. Pour les uns, c'est un chemin de vie avec Dieu parce qu'ils ont cru à sa parole et l'ont suivi. Et pour les autres, qu'ils les ont poursuivis et leur ont fait du mal, c'est un chemin de mort. Et ils ont été ensevelis dans la mer. Les mêmes eaux qui ont fait périr les incrédules ont emporté Noé, l'arche et tout ce qui s'y trouvait. Nous pourrions maintenant partir à 2 Pierre 3. Passer à 2 Pierre 3 où Pierre fait référence à toutes ces choses, mais le temps est écoulé. La parole de Dieu est si précieuse. Et je vous le dis, que le Seigneur s'adresse à Noé, qui s'adresse à Moïse, qui s'adresse à Abraham. Si ici la foule a dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme parle. Si nous pouvions demander aujourd'hui à Noé ce que tu as ressenti lorsque le Seigneur t'a parlé. Si nous pouvions demander à Abraham ce que tu as ressenti lorsque le Seigneur t'a parlé et t'a fait la promesse. Oh, quel témoignage nous entendrons dans la gloire, nous entendrons dans la gloire de tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Mais je vous le dis, il n'y aura pas de témoignage plus grand que celui de ce temps. Dieu a résumé ce qu'il a dit au jour de Noé, au jour de Moïse, au jour des prophètes, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu l'a résumé de nos jours. Peut-être Noé ne savait-il que ce que le Seigneur lui avait dit. Moïse ce que le Seigneur lui avait dit, et Abraham ce que le Seigneur lui avait dit. Et nous, qui vivons maintenant à la fin des temps, nous pouvons savoir et entendre ce que Dieu a dit à tous les prophètes, à tous les apôtres, ce qu'il a dit. Jamais un homme a parlé comme lui. Oh, que sa parole nous touche au cœur, qu'elle puisse nous pénétrer et que nous disions, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de tes paroles, de tes paroles. Un Jean tomba sur sa face comme mort et le Seigneur lui dit, ne crains pas, c'est moi, le vivant, j'étais mort et voici que je vis. Dans toute éternité, pour toute éternité, dans toute éternité, que le Seigneur nous rende vraiment grand ce soir, que c'est lui qui nous a parlé. Nous avons peut-être vu une enveloppe humaine devant nous et dit Dieu a envoyé un prophète, mais un prophète ne peut rien faire ou dire lui-même, au moins que ce soit Dieu. Au moins que Dieu ne parle par lui et que Dieu n'agisse par lui. Ainsi, nous n'avons pas seulement entendu un homme, mais nous avons entendu la voix du Seigneur en ce temps. Et avec David, nous entendons le psaume que nous avons écouté en introduction. Il va si profondément, je l'ai souvent dit, que les psaumes décrivent la situation de vie de chaque homme. Peu importe où tu entres, où tu vas, si tu lis les psaumes, tu trouveras quelque part quelque chose qui s'applique à toi. Je trouverai ce qui s'applique à moi. Les psaumes sont quelque chose de si personnel, de si précieux, de si adapté à notre vie. Et nous remercions notre Seigneur d'avoir toujours des paroles de réconfort, d'édification et de force. Comme c'était le cas au temps de Noé, c'est aussi le cas maintenant. Dieu sauve et Dieu préserve. Dieu l'exécutera. Avant que les jugements n'arrivent, nous serons entrés en Christ et nous pourrons être protégés par la grâce. Jamais personne n'a parlé comme il l'a fait. Ce sera le témoignage de tous les prophètes, de tous les apôtres et de tout le peuple de Dieu. Ce sera mon témoignage et le tien. Que notre cœur soit en feu, brûle et qu'il le remercie pour ses paroles en ce temps. Au nom de Jésus, amen. Oh, que tu nous as accordé par grâce ce soir encore ta parole. Ô Seigneur, nous sommes si heureux de pouvoir lever les yeux vers toi avec foi et confiance, car nous savons, nous aussi, qui nous a parlé en ces derniers jours. Seigneur, nous ne rendons gloire à personne d'autre qu'à toi, qu'à ton nom, alléluia. Tu as fait de grandes choses pour nous tous. Et c'est pourquoi nous venons à toi et voulons rester dans la foi jusqu'à ce que tu viennes nous chercher dans ta gloire. Nous t'adorons et nous louons ta présence, car tu n'es pas loin, tu es proche de ton peuple. Fais que nous marchions avec toi comme tous les hommes de Dieu ont marché avec toi. Ô Seigneur, c'est notre souhait et notre désir. Alléluia. Gloire à l'agneau maintenant et toujours. Sois avec nous maintenant quand nous nous séparons et bénis-nous de nouveau demain quand nous nous réunirons pour t'apporter l'honneur, la gloire et pour t'adorer. Sois dans notre foi, dans nos foyers, ô Dieu. Sois Seigneur, avec nos familles, ô Dieu, nous te confions tout, ô Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ô Seigneur. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.